Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Mille Paroles, une humanité, l'émission qui fait résonner les voix de celles et ceux qui, chacun de leur manière, font vivre la richesse de notre diversité humaine. Ici, on prend le temps d'écouter, de comprendre et de partager des récits de vie, des parcours singuliers, des histoires qui nous rapprochent et qui nous rappellent que derrière chaque différence, il y a une même humanité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités engagés, deux voix qui portent haut les valeurs de dignité, de justice et de respect. Madame Odile Garnier, présidente de la Ligue des droits de l'homme du Loir-et-Cher 41, qui œuvre sans relâche pour la défense des droits fondamentaux et la lutte contre toutes les formes de discrimination, et Monsieur Didier Richefeu, trésorier de la Ligue des droits de l'homme, dont l'engagement rejoint cette volonté de bâtir une société plus juste, plus solidaire et plus humaine. Avec eux, on va parler d'humanité, de droit, d'écoute et de ce lien invisible mais si précieux qui nous unit toutes et tous. Alors, installez-vous confortablement. Bienvenue dans Mille Paroles, une humanité, un espace pour se rencontrer, se comprendre et s'inspirer. Sans plus tarder, je vais donner la parole à nos chers invités, tout en commençant par Madame Odile Garnier, qui va se présenter plus et nous parler un peu plus de la Ligue des droits de l'homme au niveau du Loir-et-Cher 41.
Bonjour à toutes et à tous. C'est avec plaisir que j'ai accepté, bien sûr, l'invitation de Zainabou à participer à cette émission. La Ligue des droits de l'homme travaille avec toutes celles et tous ceux qui veulent construire une société digne, luttant contre les violences policières, les intrusions sécuritaires dans la vie personnelle, qui défendent le droit et les droits au travail, le droit au logement, le droit à un environnement sain, à la santé, à l'éducation. La Ligue des droits de l'homme, c'est une association de la loi 1901. La Ligue française de défense des droits de l'homme, LDH, regroupe des femmes et des hommes de tout horizon et de toutes conditions qui choisissent librement de s'associer afin de réfléchir, discuter, agir pour défendre les droits et libertés de toutes et de tous. Elle intervient sur l'ensemble du territoire à travers ses actions locales.
Merci beaucoup, Odile, pour cette brève présentation. Et je donne la parole à M. Didier Richefeu, qui fait partie aussi de cette grande structure. Bonjour Didier, pouvez-vous nous raconter un peu votre parcours, vos expériences et votre engagement qui montre une vraie volonté de créer du lien, d'ouvrir le dialogue et de faire bouger les choses concrètement sur le terrain?
Alors effectivement, en tant que membre de la Ligue des droits de l'homme, nul ne peut accepter que l'on considère que des personnes soient considérées comme illégales sur le territoire français. Donc c'est ce qui nourrit notre action, parce que c'est une action collective et non pas individuelle, c'est ce qui nourrit notre action, donc au sein de la Ligue des droits de l'homme, qui a pour objectif évidemment de défendre les droits de tous et de toutes.
Merci beaucoup Odile, merci Didier. Là, sans plus tarder, je vais vous poser juste quelques petites questions pour éclairer un peu nos chers auditeurs sur ce que fait la Ligue des droits de l'homme plus concrètement. Et là, on va parler des priorités d'action dans le département, notamment en ce qui concerne les droits des migrants demandeurs d'asile.
Alors, sur le Loir-et-Cher, plus particulièrement, nous sommes attachés à assister toutes les personnes qui sont en situation régulière ou irrégulière, que ce soit sur les accompagnements en préfecture, sécurité sociale, CAF, études de leur situation, établissement de leur dossier, demande de carte de séjour ou autre. C'est notre principale action, bien évidemment, sur le Loir-et-Cher et évidemment leur trouver, si possible, un hébergement pérenne, la scolarisation aussi des enfants, ça c'est nous sommes très attachés.
Est-ce que Didier, vous pouvez nous parler un peu plus des enjeux humains, juridiques que vous observez? Est-ce que vous pouvez revenir un peu plus sur la situation actuelle des migrants demandeurs d'asile dans ce département?
Alors, comme vous le savez, le parcours des migrants, il ne commence pas en France. Il commence dès les départs, dès leur pays de départ, qu'ils sont obligés de quitter. Nul ne quitte son pays par plaisir. Donc, il faut tenir compte déjà de tout ce parcours migratoire de leur pays jusqu'en France. Effectivement, C'est non seulement un parcours géographique très périlleux, vous n'ignorez pas non plus que la Méditerranée est devenue un véritable cimetière pour ces migrants. On estime à plus de 3000 disparus chaque année à peu près au sein de la Méditerranée. Donc nous considérons que c'est une honte européenne que de ne rien faire pour venir à leur secours. Et je pourrais parler plus tard effectivement de l'agence Frontex qui était changée, agence européenne chargée de protéger ces migrants qui traversent la Méditerranée. Mais une fois arrivés au territoire français, ils ont affaire à des procédures juridiques très 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 complexes. On pourrait parler des agences OFPRA, OFI, les centres de rétention, les OQTF, les IRTF, enfin, c'est extrêmement complexe et c'est vraiment le parcours du combattant pour chacun d'entre eux.
Okay, vous venez de parler d'OFPRA et d'OFI. Est-ce que vous pouvez expliquer ces sigles? C'est quoi OFPRA? C'est quoi OFI?
Alors, l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Ça, c'est une agence gouvernementale. Et l'OFI, Office français de l'intégration et de l'immigration, qui est aussi une agence gouvernementale chargée de suivre les dossiers des demandeurs d'asile.
D'accord. Odile, d'après vous, concrètement, quelle action mène la Ligue des droits de l'homme pour défendre les droits fondamentaux de ces personnes-là en matière d'accompagnement juridique, de plaidoyer, de soutien et face aux institutions?
Alors, nous, à la section de Blois, nous ne sommes pas avocats, nous ne sommes pas juristes, mais notre long parcours de combattant, je dirais, fait que nous apportons notre aide, que ce soit pour trouver un avocat éventuellement pour les défendre si leurs droits sont bafoués, pour des refus de demande de carte de séjour, des refus de demande d'asile. Il y a plusieurs procédures qui peuvent être engagées et c'est essentiellement notre grande bataille, je dirais.
Je reviens auprès de la présidente du Ligue des droits de l'homme. Tout à l'heure, M. Richefeux a parlé de débouter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient ce mot? Pourquoi on est arrivé à dire débouter? C'est quoi un débouté en fait? Pour juste éclairer un peu nos chers auditeurs.
Alors, en fait, les personnes qui arrivent pour demander l'asile en France, elles arrivent. Elles vont s'inscrire dans une structure, donc nous sur le Loir-et-Cher, ça s'appelle Coalia, qui leur donne un premier rendez-vous en préfecture du Loiret et un rendez-vous aussi à l'OFI. Là, elles ont 30 jours pour faire leur récit de vie, c'est-à-dire de leur départ, d'où elles sont parties, arriver en France. Et après, alors là, le temps, elles passent devant des juges à l'OFPRA. Ça peut durer plus d'un an. L'OFPRA peut considérer que leur récit, leur parcours de vie ne nécessite pas une protection, c'est-à-dire que la France n'ait pas besoin de les protéger. Hein. Ce que nous, bien évidemment, on n'est pas forcément d'accord avec, mais elles peuvent, donc là, elles sont, ce qu'on dit, voilà, ça commence, elles sont déboutées une première fois, hein, c'est-à-dire qu'on leur rejette le droit de faire le droit d'être protégées en France. Là, elles ont possibilité après de faire d'aller en recours au CNDA, à la Cour nationale des demandeurs d'asile, avec la présence d'un avocat qui confirme éventuellement la décision de l'OFPRA ou qui dit que oui, cette personne doit être protégée en France. Donc s'ils confirment la décision de l'OFPRA, ils sont des déboutés, c'est-à-dire qu'ils n'ont droit à rien du tout en France en termes de protection internationale. Hein. Après, bon, ils ont plusieurs d'autres pistes, mais le débouté, c'est celui qui a déposé un recours, son récit de vie, et que son récit de vie n'a pas été retenu par l'OFPRA comme étant un pays à risque, ou d'y vient d'un pays à risque ou autre.
Je vous comprends bien, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu pour que l'administration octroie ces titres de protection.
Tout à fait. D'accord. C'est pour ça que dans les récits de vie, il faut vraiment qu'ils soient très très précis et qu'ils apportent soit des noms de personnes où ils étaient, qui les ont torturés ou autres.
Tout à l'heure, Madame Gagné avait parlé des personnes qui sont déboutées, qui n'arrivent pas à avoir une protection, mais qui en ont concrètement besoin par absence de preuves, de quelque chose qui convainc en fait les jurys au niveau de la Cour nationale pour bénéficier d'une protection. Monsieur Richefeux, que deviennent ces personnes? Et après tout ça, elles deviennent quoi ces personnes?
Alors, de déboutées, ils redeviennent personnes humaines. donc il a déjà dit, qui ont des besoins pour s'alimenter, pour vivre tout simplement, d'être hébergés. Alors que deviennent ces personnes ? Alors effectivement, c'est là où ils s'adressent à nous, donc la Ligue des droits de l'homme et entre autres. Et là, la situation devient très compliquée. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Mme Gardier, juridiquement, ils n'existent plus. Donc ils n'ont droit à rien, pas le droit de travailler, pas le droit au séjour. Et beaucoup sont censés de quitter le territoire avec cette fameuse obligation à quitter le territoire français, avec l'obligation de pointage au commissariat ou la gendarmerie. Alors, faire appel à un avocat pour contester ce qu'on appelle OQTF. Mais effectivement, ce sont des personnes qui sont là parmi nous, qui sont en ville, qui sont à la campagne, qui doivent se survivre très difficilement, qui rasent des murs et qui sont sans droit. Et ça, donc, on ne peut pas l'accepter. Qu'il y ait donc des familles, je parle aussi des enfants, qui vivent dans des conditions lamentables. Là, je pense à une famille avec 6 enfants. Là, les difficultés commencent et les perspectives d'intégration sont loin.
Sans nul doute, on imagine que vous êtes confronté à des difficultés. C'est normal. En termes d'accompagnement et tout, vous êtes devant des obstacles, des goulots d'étranglement, j'allais dire, au niveau même de la Ligue. Dans ces actions que vous menez au niveau local, est-ce que vous avez des moyens qui vous permettent d'accéder aux institutions, aux espaces juridiques pour accompagner ces personnes-là ? Une complexité de leur démarche judiciaire ou autre ?
Alors, nous nous concertons bien évidemment sur des dossiers que Didier et moi, nous avons des dossiers des fois en parallèle, donc nous échangeons bien sûr sur ces dossiers et nous avons de toute façon l'appui du service juridique de la Ligue des droits de l'homme de Paris qui, quand on a des doutes sur une situation ou quand on essaie de savoir ce que l'on peut faire, on leur demande et c'est avec ils nous répondent bien évidemment.
Et diriez-vous, est-ce que vous avez des exemples, des cas emblématiques, en fait, qui illustrent à la fois les difficultés que vous rencontrez, les difficultés rencontrées par les migrants ? Je peux dire que là, quand on parle de migrants, je me limite aux demandeurs d'asile que vous connaissez. Est-ce que vous avez des cas emblématiques qui peuvent illustrer à la fois les difficultés qu'ils rencontrent et l'importance aussi de votre intervention ?
Alors, il faut savoir donc, effectivement, au niveau des demandeurs d'asile en France, je vais donner quelques chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur et des Migrations. Après le Covid, donc, il y a eu 100 en France, 140 000 demandes. Donc, évidemment, il y a un chiffre qui a une augmentation parce qu'au moment du Covid, le nombre de migrants avait considérablement diminué. Donc, 140 000 demandes, donc j'arrondis un peu. On a un taux de protection en France de l'ordre qui approche des 35%. Après première instance, OFPRA, et deuxième instance, Cour nationale du droit d'asile. Bon, et donc, effectivement, une fois que la procédure est terminée, donc une fois que le CNDA, la deuxième instance, a statué, on a donc à faire un grand nombre de demandes d'asile qui sont donc déboutées de droit d'asile. Et c'est là où les ennuis commencent. Enfin, ça n'empêche pas que les ennuis commencent avant, mais c'est très... Voilà. Et donc, effectivement, les dossiers que nous traitons essentiellement sont les déboutés du droit d'asile. Ils sont là, ce sont des personnes humaines qui ont faim, qui ont froid, qui ont besoin d'être logées. Comment les aider ? Comment les considérer tout simplement comme des personnes humaines et non pas des, je recite encore, des déboutés du droit d'asile, qui est un mot d'ailleurs affreux. Donc effectivement, s'il s'agit de les accompagner dans ces méandres juridiques au niveau des demandes de cartes, alors c'est très très complexe. Et ce que nous pouvons déplorer peut-être, c'est l'accès à l'information juridique, l'accès aux droits, l'accès au logement, Madame Garnier l'a cité. Donc oui, effectivement, c'est là où nous pouvons parfois les accompagner dans ce domaine-là.
En tant que présidente de la Ligue des droits de l'homme, est-ce que vous avez des choses à ajouter par rapport à ce que M. Didier vient de dire par rapport à cet accompagnement ?
Alors, oui, nous accompagnons tous les deux. Effectivement, quand ils sont déboutés du droit d'asile, ils ont toujours possibilité de demander une carte de séjour, que ce soit vie privée familiale, saisonnier, travailleur, salarié, autre. Et ça, nous les accompagnons bien sûr dans cette démarche et nous les accompagnons avant qu'ils soient vraiment perdus dans la nature parce que ça arrive très très vite pour eux.
Ça c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup. Et là, on voit ce que vous êtes en train de faire. Et sur le terrain, on est sûr que vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres structures qui sont là, soit mises en place par l'administration, soit d'autres associations comme vous. Est-ce que vous avez, est-ce que vous collaborez avec ces autres structures ou acteurs locaux ? à savoir peut-être qu'on va dire juste un exemple que je connais simplement, le CADA ou les Qualia, ce genre de choses. Est-ce que vous arrivez à collaborer ensemble et sous quelle forme?
Alors, le CADA, bon, c'est, ils ont leurs éducateurs, hein, leurs... Ils s'occupent des personnes qui sont logées au CADA. Nous, après, bien évidemment, c'est quand ils sont déboutés du CADA qu'on les reçoit et qu'ils viennent nous voir, hein, nous, pour chercher de l'aide. Mais quand ils sont au CADA, en fait, non, on a très peu de contacts, hein, puisqu'ils sont suivis par le CADA, très bien par le CADA, hein, que ce soit n'importe quel CADA, hein, que ce soit Blois, Saint-Aignan que vous connaissez ou autre, hein, voilà. Et des autres associations, bah oui, on a des échanges puisque il y a une réunion dont Didier, Monsieur Richefeux et le secrétaire autoproclamé qui s'appelle le collectif des sans-papiers. Donc on se réunit une fois par mois et là c'est ouvert à toutes les associations, à tout le monde. Et là on échange justement sur pas forcément des dossiers parce que ça regarde pas forcément tout le monde qui est là, mais sur les difficultés que l'on rencontre sur le département.
Nous étions jeunes et larges dépôts, bandits joyeux, insolents et drôles. On attendait que la mort nous frôle, on the road again. On the road again, again. Au petit jour, on quittait l'Irlande, et derrière nous s'éclairait la lande. Il fallait bien un jour qu'on nous pende. On the road again, again. On the road again.
Je rappelle juste à nos chers auditeurs que le CADA, c'est un centre d'accueil des demandeurs d'asile. En parlant de la collaboration entre la Ligue des droits de l'homme et les acteurs locaux, vous avez parlé tout de suite du collectif des sans-papiers. Et je vais juste demander à M. Didier Richefeux de nous parler un peu de votre relation avec ces collectifs-là, parce que j'ai eu la chance de rencontrer une association qui est à Saint-Aignan, que je connais d'ailleurs, à SMVC, et j'ai eu aussi la chance d'assister avec vous à la table ronde de l'année passée sur la migration. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus spécifiquement sur une association que vous connaissiez qui est dans le département et avec qui vous avez des relations?
Effectivement, en tant que secrétaire, et je souligne autoproclamé parce qu'il s'agit d'un collectif, et ça c'est très important, d'un collectif de soutien aux sans-papiers et aux demandeurs d'asile. Alors moi je suis rentré, on va dire, assez récemment dans ce collectif, enfin récemment, un certain nombre d'années, mais ce collectif, ça existe depuis au moins plus de 30 ans. Ça, il faut bien savoir. Donc, il est bien implanté depuis fort longtemps dans le Blaisois. Ce collectif se compose de partis politiques, on va dire, ayant une sensibilité évidemment humaniste, c'est évident, d'associations caritatives, confessionnelles, des associations qui œuvrent aussi pour la protection et la défense des droits des personnes migrantes, mais pas seulement, et composé de différentes structures. Et aussi, je pense à l'association que vous connaissez tous et toutes, donc Pas d'enfants à la rue, qui a été créée donc il y a exactement un an, donc dont l'objectif est de s'assurer, enfin de faire respecter le droit des enfants et la Convention internationale des droits de l'enfant, et s'assurer qu'il n'y ait aucun enfant à la rue sur le Blésois et dans le Loir-et-Cher. Donc voilà, oui, cette structure donc permet de, enfin cette forme de, on va dire associative, enfin collective, on va dire, permet de un de se parler, d'échanger. Alors qu'on a tous un passé, on va dire, alors politique, idéologique, confessionnel, caritatif, un peu différent. Mais effectivement, ça permet de réunir un petit peu les, on va dire, les forces, les pour mettre en valeur effectivement les sujets auxquels on tient.
En fait, on peut aussi basculer aussi sur une autre question qui me tient aussi à cœur. Donc, sur votre analyse des récentes lois portées par le gouvernement et leur soutien politique, notamment la loi Darmanin sur l'immigration et la loi Retailleau sur l'asile et l'intégration. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces lois?
Alors, je vais tenter, de par respect pour nos auditeurs et auditrices, de rester très diplomate. On l'a intitulé officiellement donc la loi de la honte, d'accord. Je pense à la loi de janvier 2024, donc une loi donc portée par le ministère de la Justice, ministère de l'Intérieur et ministère du Travail. Cette loi succède à déjà au moins 30 voire 35 lois qui sont censées résoudre, alors d'après les politiques concernées, donc les problèmes de la migration. Donc voilà, et en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune évaluation des lois précédentes, et tous les deux ans à peu près, il y a une loi qui est votée au Parlement, et en fait qui a pour objectif de réduire considérablement les droits humains les plus fondamentaux, et réduire considérablement l'accès au territoire français. Et donc, par conséquence, donc l'idée d'intégration est pratiquement réduite à zéro. Dans les dernières circulaires, je n'ose pas prononcer le nom de ministre, effectivement, si on parle par exemple du droit au travail, enfin l'accès au marché du travail, les conditions d'accès au marché du travail et ensuite éventuellement d'obtenir une carte avec l'autorisation de travailler sont absolument drastiques. Ce n'est plus même, enfin, on ne parle même plus d'admission exceptionnelle de séjour, c'est l'exceptionnelle admission exceptionnelle de séjour. Voilà. Ça d'une part. D'autre part, les droits au recours. La France est un pays de droit. Les droits au recours juridique ont été considérablement réduits. Et les structures type OFPRA, CNDA, vont dans le sens d'une restriction du droit à la défense, du droit à être respecté en tant que personne humaine. Je voudrais revenir sur un point qui est évoqué tout à l'heure. On a parlé des CADA, qui font un travail effectivement très honorable en fonction des moyens qui leur sont accordés. Il faut savoir néanmoins, et c'est aussi un chiffre du ministère de l'Intérieur, qu'une personne sur deux, donc une personne migrante sur deux, n'a pas de solution d'hébergement. Ça, c'est un chiffre officiel. Et les familles qui ont la chance de résider dans un CADA sont déjà mises à l'abri. Donc une personne sur deux n'est pas mise à l'abri, une personne sur deux vivent dans des conditions déplorables et rien n'est prévu pour eux. En dépit d'un effort des services de l'État depuis 2015 pour augmenter l'hébergement d'urgence. Et d'après un dernier document mis à notre disposition, donc en 2024, je peux citer le chiffre de 650 places mise à disposition par les services de l'État et autres, hein, les opérateurs de l'État, pour l'hébergement d'urgence. Mais c'est loin, très loin d'être satisfaisant.
J'imagine bien. En tant que présidente de la Ligue, est-ce que vous pouvez revenir sur les conséquences concrètes de ces lois? Peuvent-elles avoir sur le respect en fait, des droits fondamentaux de ces migrants demandeurs d'asile?
Alors, sur les lois, moi je dirais qu'elles sont toutes défavorables aux migrants. C'est surtout sur les conséquences. Hein. Par exemple, on a des femmes qui arrivent pour mariage forcé, qui obligatoirement est refusé par l'OFPRA. On ne sait pas pourquoi. Hein. Ce sont des femmes qui ont été mariées à l'âge de 13 ans avec un homme de plus de 60 ans. Elles font une demande d'asile, évidemment. C'est refusé par l'OFPRA. Et là, franchement, c'est, voilà, ce sont des personnes qui seront laissées comme ça. Le réexamen, bah, pas possibilité de faire un réexamen, parce qu'évidemment, elles sont parties sans prendre de photos, sans papier, sans rien. Et ouais, c'est un peu...
Preuve, quoi, qui...
Pas de preuve.
Voilà. Monsieur Didier, allez-y.
Oui, je voulais ajouter certains points qui mériteraient d'être dites, je pense, par rapport à tout ce qu'une presse d'extrême droite relaye. Donc, ces personnes migrantes, donc je rappelle, une personne sur deux n'est pas prise en charge en termes d'hébergement par l'État et les opérateurs de l'État. Ceux qui ont la chance d'être pris en charge, donc en procédure, ils ne touchent 6,80 €. Je dis bien 6,80 € par jour, le temps de la procédure. Explique-moi comment on peut vivre avec 6,80 €. Il faut savoir aussi qu'ils n'ont pas le droit de travailler. Pas le droit de travailler et que le niveau de français qu'on exige maintenant, en fonction de la circulaire Retailleau, il n'est pas prévu d'accompagnement, enfin il n'est pas prévu de structure pour les diriger justement pour l'apprentissage de français, alors qu'un niveau de français est exigé. Autre point, donc ces familles qui sont déboutées de l'asile, donc on leur en partie sorties du CADA et les autres qui sont devenues invisibles, elles n'ont droit à rien. Contrairement à ce que dit la presse, une presse d'extrême droite, il n'y a pas d'allocation de rentrée scolaire, pas d'allocation logement. Ils n'ont droit à strictement rien. Ce sont des, d'ailleurs même pas des citoyens, ils n'existent pas. Ils n'existent plus, ils sont totalement invisibles. Or, ils ont des enfants, et là par contre on peut dire que ça fonctionne assez bien, les enfants sont scolarisés sans problème, mais en termes de revenus ponctuellement, ils n'ont rien, ils ne touchent rien en termes de l'État. Ça, il faut bien comprendre. Donc comment accepter en France en 2025 que des familles entières ne disposent d'aucun moyen de subsistance? Ce n'est pas acceptable.
Vous avez quelque chose à ajouter, Madame Odile, sur ce
oui,
que vient de dire?
Moi, je dirais que dans mon langage, je les appelle les nini, c'est-à-dire non expulsables, non régularisables. Et voilà.
Les nini.
Voilà.
Non expulsables.
Non régularisables. Voilà.
En tout cas, merci beaucoup. Je comprends aussi derrière vos inquiétudes et derrière aussi les analyses que vous faites. Vous avez eu à observer quelque chose. Et là, je m'avais vous demandé quelles sont les évolutions et les réformes qui vous sembleraient-vous prioritaires pour renforcer la protection, des droits et d'intégration de ces migrants demandeurs d'asile, d'après vous, votre vision, vous, en tant que personne intervenante auprès de ces personnes?
En fait, ces personnes, elles demandent qu'une chose, c'est de rester sur le territoire français, pouvoir y élever leurs enfants et surtout travailler. Et je ne comprends pas qu'on ne les laisse pas travailler. Certaines travaillent. Au moment d'un renouvellement de titre de séjour, on ne renouvelle pas parce que, soi-disant, que l'employeur n'a pas demandé l'autorisation de travail. Alors ça, c'est pareil, c'est un gros débat aussi. Et faire toutes les démarches sur la NEF... pour des personnes qui ne savent pas, souvent, qui n'ont pas de possibilité de connecter et tout ça, c'est très compliqué. Pour moi, ne pas les laisser travailler, elles sont très, très volontaires. Elles veulent toutes travailler, en fait.
Pour ma part, j'ajouterais que, d'une part, il faut absolument lutter contre cette idée qu'il y aurait en France une vague submersive de migrants, délinquants. Donc là aussi, ça suffit. Cette loi dite de la honte d'intégration et d'immigration, donc en termes de pensée philosophique, c'est d'assimiler les migrants aux délinquants. Et donc là, ça suffit. Et ça suffit. Il faut les considérer comme des personnes à part entière. C'est le minimum d'humanité qu'on puisse leur proposer, leur offrir. Deuxième chose, donc effectivement, la France, en termes d'accueil, la France, pays d'accueil, est loin de prendre sa part, très loin. D'après les statistiques européennes, qui sont fiables quand même, parce que je crois qu'il est temps quand même que les médias se tournent vers des scientifiques, vers la réalité scientifique, vers des chercheurs. Et je peux citer ici donc François Héran, donc professeur au Collège de France, qui a sorti un ouvrage, un excellent ouvrage intitulé « Immigration, le grand déni ». Et je cite un ouvrage qui vient de paraître « En finir avec les fausses idées sur l'immigration » de Sophie-Anne Biziot, qui reprend toutes ces fausses informations, je dis bien ces fake news, hein, donc ils ont pensé en tant que tels. La France est loin de prendre sa part en termes d'intégration, en termes d'accueil des migrants. On est en bas du tableau par rapport à la population, par rapport à la richesse. Savez-vous, par exemple, que nos amis allemands, en 2015, ont accueilli plus d'un million de Syriens en raison de la guerre en Syrie. Et la France, et je le dis un petit peu avec la honte, près de 30 000. Donc voilà un petit peu le rapport de la France, soi-disant terre d'accueil, et qui est pour moi plutôt une terre d'écueil pour les migrants. Donc il n'y a pas de subversion, il faut arrêter avec ce discours de la peur, c'est le discours de la peur de l'autre qui nourrit cette extrême droite que la Ligue des droits de l'homme donc combat chaque jour.
Monsieur Richefort, je reste avec vous toujours. Est-ce que vous pouvez donner le regard que vous avez sur l'histoire des frontières? Souvent, donc, comme on dit, mouvante, comment percevez-vous aujourd'hui les barrières qui se dressent dans l'intégration des demandeurs d'asile, notamment pour l'accès aux métiers et à l'insertion professionnelle?
Alors là, moi j'entends, dans votre question, j'entends deux choses. Alors, effectivement, en termes d'immigration, les mouvements migratoires ont toujours existé depuis tous les temps. Et les premières migrations, c'est au sein d'un continent. Et effectivement, quand il y a, donc les raisons sont multiples, essentiellement pour des raisons pour fuir le pays, pour des raisons de guerre. Et les premières migrations, c'est le premier geste, c'est d'aller vers le pays voisin. Donc les premiers pays qui accueillent sont les pays voisins de pays en guerre. Et ça reste au sein d'un continent. L'Europe, en fait, ne reçoit que très peu de migrants d'autre part. Alors, je reviens aussi sur des chiffres en France quand même aussi. On parle donc de 10% de population immigrée en France. Mais dans cette population immigrée, la moitié sont d'origine continentale. Donc, des Européens, des Allemands, des Anglais, des Portugais, des Espagnols. Donc là aussi, il faut rétablir un peu la vérité des chiffres. Et ça, il suffit simplement de se tourner vers l'INSEE. Ensuite, en termes d'accès au marché du travail, Effectivement, dans la circulaire Retailleau, on parle de métiers en tension. Or, il semble assez compliqué, là aussi ça mériterait d'être un peu d'être clarifié, il semble assez compliqué d'accéder à ces métiers en tension. Chaque année, donc, le France Travail édite un document qui fait état de demandes, de projections d'emploi en France et dans la recherche. Tout le monde sait qu'il y a des demandes d'emploi, il y a des besoins d'emploi pratiquement dans tous les domaines. Pas uniquement la restauration, pas uniquement les aides à domicile, pas uniquement les aides-soignantes, pas uniquement la sécurité, pas uniquement la logistique. Il suffit de regarder les affiches, vous voyez artisans, recherche employés, les bouchers, les boulangers, enfin ça concerne toutes les personnes. Donc effectivement, il est grand temps quand même de donner, enfin, si on considère que l'intégration passe par le travail et la maîtrise de langue, là on est d'accord, il est grand temps de faire un geste pour ces personnes-là et de les sortir de cette économie parallèle qui nuit à tous.
Et Madame Odile Garnier, avez-vous des choses à ajouter par rapport à l'insertion professionnelle ?
Alors là, oui, l'insertion professionnelle, bon, qui commence par l'apprentissage du français. Donc qui va être, si j'ai bien compris, dématérialisé, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y aura plus de cours, hein, alors que l'on sait que c'est quand même l'échange. Hein, être tout seul devant son ordinateur ou devant son téléphone, je ne suis pas sûre que ça soit la meilleure méthode pour apprendre le français. Autant quand ce sont des cours collectifs, on peut échanger, parler, il y a la conversation, il y a tout un tas de choses. Et ça, je pense que l'apprentissage du français commence par l'intégration. Tout le monde le sait en fait. Et les enfants qui vont à l'école l'apprennent très très vite, le français. Hein, voilà.
Je me permets d'ajouter donc la question sous-jacente que vous avez posée tout à l'heure. Effectivement, nous subissons une politique de nature idéologique, je dirais, qui ne s'inscrit plus dans le siècle des Lumières à la française, donc c'est-à-dire d'ouverture des frontières. Et au contraire, on assiste à une sorte de renfermement idéologique, même physique, avec les frontières, les barbelés. Je parlais de Frontex, là, l'agence européenne censée aider, mais en fait, c'était documenté par Amnesty International, en fait, qui rejette les migrants à la mer, pratiquement. Rappelez-vous du comportement de l'Italie à un certain moment. Moi, je m'étonne que la France, terre d'accueil, terre des droits de l'homme, n'ouvre pas ses ports pour accueillir ces migrants en errance dans la Méditerranée. Rappelez-vous aussi des tragédies de Calais, enfin, les migrants qui veulent traverser la Manche. Mais c'est insupportable, ça, c'est abominable. Comment se fait-il qu'on soit encore là à assister à ces naufrages perpétuels? Pour moi, on assiste à un naufrage idéologique de cette France qu'on aime tant, cette France, enfin les valeurs républicaines d'ouverture et de solidarité. C'est un vrai naufrage idéologique auquel on assiste actuellement.
D'accord, si je comprends bien, derrière chaque migrant, il y a la souffrance, il y a un vécu. Comme vous m'avez dit de ne pas parler d'expérience, je veux dire, il y a un vécu. Comme Michel Auger aussi me demande de ne pas parler de débouté. Donc, il y a un vécu derrière chaque migrant. On va parler de cette sensibilisation locale auprès des populations parce que là, tout à l'heure, vous l'avez évoqué, les gens ont tendance à donner des jugements, à coller des étiquettes à ces personnes-là. Vous, en tant que membre d'une association qui œuvre pour le droit de ces êtres humains, qu'avez-vous à dire pour sensibiliser la population autour de ces personnes?
Alors, bon, moi j'entends dire beaucoup, hein, pratiquement par tout le monde qui ne côtoie pas ces personnes, qu'elles sont venues en France pour toucher les allocations. Il faut dire qu'elles ne touchent rien du tout, comme l'a dit M. Richefeux. Hein, et en plus, quand elles sont régularisées, beaucoup ne touchent même pas les allocations familiales. Il y a des conditions qu'il faut que les enfants soient venus par regroupement familial ou nés en France. Et les familles qui arrivent avec leurs enfants, certaines ne touchent pas d'allocations familiales. Donc il faut arrêter de dire qu'elles sont ici, toutes en France, pour toucher des allocations ou bénéficier des aides sociales. Bien évidemment, elles ont souvent, avant de pouvoir travailler, elles ont recours à toutes les structures pour l'aide alimentaire, les enfants sont tous scolarisés, donc ça, c'est vrai que c'est quand même très très bien, mais elles ne touchent pas du tout d'aide.
Monsieur Richefeux, avez-vous des choses à ajouter par rapport à la conscientisation de la population?
Alors, effectivement, si on parle de la prise de conscience par rapport à l'apport de la migration. Quand il y a différents sondages, hein, les sondages de type CNews, hein, qui a dit que 2/3 des Français veulent une loi encore plus renforcée contre les migrants, etc. Mais il y a aussi d'autres sondages, on va dire, beaucoup plus scientifiques, beaucoup plus honnêtes qui existent, hein, des sociologues, qui indiquent que quand on sait que, je pense aux personnes un peu âgées qui ont une aide sociale, une aide soignante, quand on leur dit votre aide-soignante, elle est sans papier et risque d'être expulsée, quand on vous dit que votre médecin qui est d'origine algérienne risque d'être expulsé, quand on vous dit que tel... Rappelez-vous au moment du Covid, toutes les personnes qui ramassaient nos poubelles, on les a applaudis. Bon, on avait promis d'ailleurs de les régulariser, on attend toujours. Bon, effectivement, dès que ça touche les personnes dans leur quotidien, donc aide-soignant, etc., médecin, etc., enfin, et autres, là, les avis changent considérablement. Donc, effectivement, déjà, la France a toujours, et ça, c'est une des qualités, enfin, pas seulement de la France, de l'Europe, d'accueillir généreusement et très bien. Encore une fois, on ne quitte pas son pays par plaisir, on ne quitte pas son pays par faire du tourisme, c'est par obligation. D'ailleurs, on pourrait s'interroger pourquoi il y a des guerres ici et là, pour quelles raisons économiques, on va dire, supranationales. Ça, c'est une question à se poser aussi, qu'on se pose jamais. Donc, effectivement, France, terre d'accueil, nous souhaitons qu'elle reste comme ça, avec le respect de chacun, et puis mettre fin à cette idéologie de la haine qui est en train de s'installer. Je voudrais un petit mot quand même sur, vous savez, on a parlé beaucoup et moi je trouve ça assez choquant. Vous rappelez-vous, un ancien Premier ministre, donc au JT, qui nous indiquait que les migrants venaient en France pour bénéficier de la balnéothérapie. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Bon, je trouve ça scandaleux. On ne vient pas en France pour faire de la balnéothérapie. Et donc là, je voudrais parler de l'aide médicale d'État. À chaque changement de ministre, donc, on parle toujours de renforcer la lutte contre l'immigration illégale et on veut réformer, c'est le terme qui vient tout le temps, l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, ça représente 0,50% du budget de la sécurité sociale. Autrement dit, c'est très, très, très faible. Et cette aide médicale d'État, je peux vous assurer, il n'y a aucun abus. Enfin, pas en grande échelle, évidemment. Il y a sûrement des abus ponctuellement, mais vraiment, même les personnes migrantes rechignent parfois à aller chez les médecins, à renoncer à des soins, parce qu'effectivement, c'est très compliqué. Donc, même cette aide médicale d'État qui est, à nos yeux, le minimum, on va dire, de droit à la santé, même ça, c'est remis en cause. Là aussi, on ne peut qu'exprimer notre colère la plus forte.
En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous deux. Si vous avez un petit message à passer à nos auditeurs, notre émission tire à sa fin.
Alors, merci de nous avoir écoutés. Moi, je vous demanderai si vous pouvez vous rapprocher auprès de toutes les associations qui s'occupent en faveur de toutes ces personnes, les migrants. Il y en a certaines qui ont ouvert des collectes pour avoir de l'argent, pour pouvoir les héberger, les scolariser, leur trouver un travail, des choses comme ça. Voilà. Et n'hésitez pas à venir vers nous aussi si vous voulez avoir plus d'informations.
Bon, 2-3 petites choses. Alors, les migrants ne sont pas des délinquants. Ils ne sont pas des délinquants. Et deuxième chose, indignez-vous, je reprends la formule de Stéphane Hessel, indignez-vous face à cette politique de répression contre l'accueil des migrants, contre le droit d'asile qui est remis en cause. Et puis, dernière chose, effectivement, personne n'est légal. Aucun être humain ne peut être considéré comme illégal. Merci beaucoup.
Merci à vous, Madame Odile Garnier. Merci à vous, Monsieur Didier Richefeu, pour vos paroles, votre engagement et votre humanité. À travers vos témoignages, on mesure combien le dialogue, l'écoute et la solidarité restent des forces puissantes pour faire vivre nos valeurs communes. À la prochaine. Merci à nos autres également.